France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, les établis en usine, quand des intellectuels se mêlaient aux ouvriers pour semer les graines de la Révolution. Dans un bouillonnement à la gauche du Parti communiste français, au milieu des années 60, de nouvelles formations politiques émergent. Les étudiants qui en sont à l'origine contestent la ligne pro-URSS du PCF et veulent revenir aux préceptes fondateurs du marxisme-léninisme. Ainsi naît une myriade de mouvements dont l'activisme et le goût pour l'agitation politique constituent le terreau fertile de mai 68. Mais avant cette poussée de fièvre, certains de ces militants, aveuglés par la révolution culturelle chinoise, décident de préparer la leur directement au cœur des usines où ils vont s'établir pour connaître la réalité de la vie ouvrière de l'intérieur. Donc, pour servir d'aiguillon aussi, être l'étincelle qui peut mettre le feu à la plaine, comme le disait Mao, grand inspirateur de ces établis, et tant pis si l'homme en question a mis en place chez lui une féroce dictature, ça ne semble pas gêner ses rêveurs du grand soir. Il n'empêche, leur expérience a permis de prendre conscience de l'importance de certaines luttes, comme celle pour les droits des travailleurs immigrés, par exemple. Notre invité aujourd'hui, Marnix Dressenwein, sociologue, auteur d'une thèse sur les établis après avoir lui-même pratiqué cet engagement à l'usine, et Virginie Linhart, autrice des livres intitulés « Volontaires pour l'usine, vie d'établi et le jour où mon père s'est tu » aux éditions du Seuil, ouvrage dans lesquels elle raconte l'engagement politique de son père, Robert Linhart, lui aussi établi. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sylvie Fagnard, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Étienne Bertin et Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Paris, 1er mai 1968. Les drapeaux rouges flottent sur la ville et célèbrent le retour des manifestations de travailleurs. Depuis l'interdiction du défilé par le gouvernement en 1954, le Parti communiste français et son bras syndical, la CGT, n'appelaient plus à marcher en cette journée internationale des travailleurs. Pour la reprise de cette tradition, interrompue donc pendant 14 ans, le peuple de Paris répond présent. 100 000 personnes selon les organisateurs, 25 000 selon la police. Toujours ces chiffres exaspérants donnés par les deux partis, démonstration en tout cas de l'audience des forces communistes du pays à l'époque et de la discipline des troupes encadrées par le service d'ordre impitoyable de la CGT qui maîtrise rapidement la poignée de jeunes qui tentent de perturber le cortège. Des gauchistes, comme les nomme le PCF. En fait, des trotskistes et des maoïstes qui hurlent des slogans réclamant un gouvernement ouvrier, bilan, 17 blessés. Au-delà de ces éléments perturbateurs, ces gauchistes ont aussi colonisé les trottoirs. Plusieurs d'entre eux vendent à la criée, pour un franc, quelques feuillets imprimés en noir et blanc. C'est le premier numéro de La Cause du Peuple, daté de ce 1er mai 1968. On y lit.
Servir la cause du peuple, voilà notre programme. Deux voies s'offrent aux étudiants. Devenir des fidèles larbins du capital ou se mettre au service des ouvriers, des travailleurs, des paysans pauvres. C'est du côté du peuple que nous avons choisi de nous ranger. Les patrons, l'État à leur service, oppriment le peuple, imposent la misère. L'université au service du peuple, ce sont les travailleurs qui la gagneront. Un grand mouvement de masse des étudiants se développe pour le travail pratique au service des ouvriers. C'est cela que nous voulons dire aux travailleurs. C'est cela qu'ils doivent savoir. C'est aux portes des usines que les ouvriers doivent nous indiquer ce qui sert leur lutte, qu'ils doivent corriger nos erreurs. Nous connaîtrons des difficultés, mais nous sommes certains d'être dans la voie juste.
La voie juste, oui, mais quelle est cette voie? Depuis quelque temps, une partie de la jeunesse, pourtant communiste, emprunte une route différente de celle tracée par le PCF. Pour le comprendre, il faut remonter plusieurs années plus tôt et se plonger dans le tumulte des réunions enfumées à la Sorbonne ou à Normalsup. Ces fleurons de l'enseignement supérieur sont déjà le théâtre de l'engagement politique des jeunes et ils fournissent le gros des troupes de l'Union des étudiants communistes. Cette UEC, le PCF l'a évidemment toujours vue comme son vivier personnel et qui ne doit jamais dévier de la ligne établie par le parti. Mais parmi ces jeunes chevelus, certains commencent à ruer dans les brancards. Début mars de l'année 65, c'est le 8e congrès de l'UEC. On s'y déchire entre les pro-italiens, qui prônent un communisme matiné de social-démocratie, à l'instar du PCI italien d'Enrico Berlinguer, et les pro-PCF, ligne dure, adossée à l'URSS. Ce jour-là, un jeune homme grimpe à la tribune. Ses cheveux châtains en épi, ses yeux bleus délavés lui donnent un air plutôt doux. Mais c'est d'un ton tranchant qu'il s'exprime, avec une acuité intellectuelle qui séduit immédiatement son auditoire. Robert Linhart, c'est son nom, fustige la confusion qui règne au sein de l'organisation étudiante. Son reproche, l'UEC n'est pas ce qu'elle devrait être, une école du communisme. Il faut donc pallier cette carence. Robert Linhart annonce alors la création d'une nouvelle revue, les cahiers marxistes-léninistes, que ses camarades distribuent déjà alors qu'il harangue, lui, toujours l'Assemblée. Cette poignée de garçons est venue tout droit de la rue d'Ulm. Ils sont étudiants à l'école normale supérieure et y suivent extatiques les cours de leur répétiteur Louis Althusser. Celui-ci leur propose de revenir à l'essence des textes de Marx. Ils n'ont dès lors plus que l'expression « marxisme-léninisme » en bouche et vont d'amphi en amphi prêcher la bonne parole, blâmant dans le même temps ce PCF qu'ils traitent de révisionniste. Ils lui reprochent aussi, sur le plan de la politique intérieure, de soutenir le candidat socialiste François Mitterrand à la présidentielle de 1965. Linhart et ses disciples sont exclus de l'Union étudiante communiste au printemps 66. En décembre de la même année, il crée l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, qu'on appelle le plus souvent UJI. Au même moment, à l'autre bout du monde, l'incendiaire chinois Mao Zedong lance la grande révolution culturelle prolétarienne. Et les jeunes Français de l'UJI perçoivent la destitution des mandarins et des caciques du Parti communiste chinois, non pas comme la manœuvre d'un tyran qui voit son pouvoir lui échapper, mais bien comme la promesse de nouveaux lendemains qui chantent, débarrassés des privilèges des apparatchiks et de la bourgeoisie qui empêche, je les cite, l'implantation de l'idéologie prolétarienne, logorée. Alors, quand une poignée d'entre eux est invitée à un voyage à Pékin par les autorités chinoises à l'été 67, ils sautent sur l'occasion de visiter leur paradis. Et ils en reviennent enchantés, épatés par les récits d'étudiants chinois partis travailler dans les champs pour se défaire précisément de leur intellectualisme. Dans leur bagage, ils rapportent également les paroles de leur nouveau maître à penser, comme cette intervention sur le travail de propagande prononcée à la conférence internationale du Parti communiste chinois le 12 mars 1957.
Puisque les intellectuels sont appelés à servir les masses ouvrières et paysannes, ils doivent tout d'abord les comprendre et bien connaître leur vie, leur travail et leur mentalité. Nous recommandons aux intellectuels d'aller parmi les masses, dans les usines, dans les campagnes. Certains peuvent aller dans les usines ou à la campagne juste pour jeter un coup d'œil et faire un tour. Cela s'appelle regarder les fleurs du haut de son cheval. Ce qui vaut toujours mieux que de rester chez soi et ne rien voir. D'autres peuvent y séjourner plusieurs mois pour mener des enquêtes et se faire des amis. Cela s'appelle descendre de cheval pour regarder les fleurs. D'autres encore peuvent y rester et y vivre longtemps, par exemple 2 ou 3 ans. Ou même plus. Cela s'appelle s'établir. Prendre contact avec les masses ouvrières et paysannes doit devenir un usage. Autrement dit, il faut qu'un grand nombre d'intellectuels suivent cette pratique.
Robert Linhart et ses quelques camarades de voyage comprennent alors qu'ils doivent changer de direction. Fini l'étude austère des textes fondateurs. C'est en faisant la révolution qu'on apprend à la faire. Autre citation de Mao. Coïncidence heureuse, un autre petit groupe de l'UJI est sur la même ligne. Alors, eux ne sont pas partis en Chine au cours de cet été 67, non. Ils ont sillonné les routes de France pour aller à la rencontre des paysans et des ouvriers. Christine Linhart, la femme de Robert, a participé à une manifestation de travailleurs de l'usine Perrier dans le Sud et, en discutant avec eux, elle a acquis une conviction. Il leur faut mieux connaître les usines. À l'automne 67, l'UJI décide donc d'une nouvelle ligne politique, l'établissement. Concrètement, cela signifie que étudiants, intellectuels quittent leurs études pour se faire embaucher à l'usine. Ils en sont persuadés. La classe ouvrière étant par essence révolutionnaire, selon leurs convictions marxistes, il leur suffit d'être l'étincelle qui peut mettre le feu à la plaine. La citation du maître, pour que la révolution commence. Donc, ils doivent conscientiser les ouvriers sur la dureté des conditions de travail pour que ceux-ci décident de renverser le cours de la lutte des classes. Au cours de cet automne 67, ils sont une trentaine à suivre le mot d'ordre. Ils se font embaucher, qui dans la conserverie de poissons, qui dans une fabrique d'essuie-glaces. Et très vite, ils se confrontent à la réalité des usines, à la diversité de cette classe ouvrière qu'ils voyaient plutôt d'un bloc idéalisé. Et ils comprennent vite qu'avant d'arriver à provoquer la révolution, le chemin va être long. Tout à leur travail de fourmis et d'éveilleurs de conscience masqués, ils ne se rendent pas compte que le feu prend. Effectivement, mais pas où ils l'attendent. Le 3 mai 68, en effet, les étudiants de Nanterre et de la Sorbonne affrontent les CRS dans les rues du quartier latin. Nuit et jour, les manifestations de jeunes se succèdent. Mais à l'UJI, on refuse de donner crédit à ce mouvement en cours. Un événement qui n'a été ni anticipé, ni orchestré par l'organisation ne peut en aucun cas constituer les prémices de la révolution. Point. Robert Linhart interdit donc à ses troupes de se mêler à ces petits bourgeois. Seul compte encore et toujours la classe ouvrière. Et pourtant, sans que les Mao de l'UJI ne l'aient vraiment prévu, la classe ouvrière, elle aussi, va se mettre en mouvement.
Le monde ouvrier, à son tour, entre en scène. Les ouvriers de Renault, comme ceux de Sud Aviation à Nantes, occupent les usines. L'usine de Boulogne-Billancourt est occupée après celle de Flins. À l'intérieur de l'usine, les meetings se tiennent autour des délégués syndicaux. Les revendications sont précises. Cependant, des orateurs déclarent « Les étudiants veulent rendre plus humaines leurs universités et nous, travailleurs, nous voulons rendre plus humaines nos usines. »
Dès le 13 mai, la grève générale étreint toute la France. Plus d'une centaine de grandes entreprises sont occupées. Et les militants maoïstes de l'UJI reviennent dans la course de mai. Ils organisent une grande marche, décidément maoïste jusqu'au bout des ongles. En l'occurrence, une marche vers l'usine Renault à Billancourt. Les manifestants portent une banderole sur laquelle on peut lire « Les ouvriers prennent des mains fragiles les étudiants, le drapeau de la lutte contre le régime antipopulaire. » Une paraphrase de Staline, autre grand penseur. Ils sont un millier à marcher comme ça en ce 17 mai 68 vers l'ouest parisien. Mais à la forteresse de Billancourt, on ne les accueille pas à bras ouverts. Ici, la CGT règne en maître sur les ouvriers et voit d'un très mauvais œil ces chevelus débarquer avec leur bréviaire marxiste. Pour les syndicalistes, ces gauchistes sont des enfants de bourgeois. Il faut s'en méfier. Mais cela ne décourage pas les militants Mao de vivre leur rêve éveillé. La trentaine d'entre eux qui se sont établis dans les usines avant les événements y campent désormais, alimentant la flamme de leurs collègues grévistes. Les autres passent leur temps au pied des entreprises à distribuer des tracts et à aider au ravitaillement. Soyez réaliste, demande à l'impossible. Oui, mais l'utopie par définition a vocation à échouer. Et celle du mois de mai 68 ne déroge pas à la règle. Le 31, les syndicats cèdent la place au CRS pour déloger les grévistes des lieux de production. Les Mao y voient la forfaiture de leur ennemi juré, les têtes pensantes du PCF et de la CGT, qui ont tout fait pour faire cesser le mouvement après la signature des accords de Grenelle, le 27 mai. Mais les bastions irréductibles résistent, et pas n'importe lesquels. L'usine Renault de Flins est celle que les Mao appellent l'usine numéro 1, à savoir Peugeot à Sochaux, où les ouvriers refusent de retourner à leur poste. À Flins, les CRS tentent de reprendre l'usine le 6 juin. Les militants s'y pressent, faisant masse de l'autre côté des grilles pour soutenir les grévistes. Le face-à-face dure 3 jours et épuise les nerfs dans tous les camps. Gilles Totin, un lycéen, photographe pour l'UJ, meurt noyé dans la Seine après une course-poursuite avec la police. À Sochaux, les heurts sont encore plus violents. Lors de la reprise du travail, 2 ouvriers trouvent la mort, Pierre Bellot et Henri Blanchet. La tension est si grande que les rumeurs ne tardent pas à se répandre. On aurait retrouvé des cadavres de CRS dans des bains d'acide. Et les ouvriers finissent par entrer dans le rang. Et la vie continue, comme avant. Fin de partie, évidemment, pour l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes. Le 12 juin 68, l'organisation, comme 11 autres mouvements gauchistes, est dissoute sur ordre du ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin.
Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent et moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient, moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao.
C'est le petit lèvre rouge qui fait que tout enfin bouge.
L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mue Mao, Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao, Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao, Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao, Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao, Mao. Diap dénonce, je renonce Mao, Mao.
C'est le petit lèvre rouge qui fait que tout enfin bouge.
La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même. Mao, Mao. Mao, Mao. Mao, Mao. Mao, Mao.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les établis des étudiants à l'usine.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Les vagues de l'été n'ont pas fait retomber la fièvre des Mao. À l'automne 68, l'heure est même au règlement de compte au sein de l'ex-UJ depuis son interdiction par le pouvoir en place. Une majorité des 2 à 3 000 militants que compte le mouvement accuse leur chef, Robert Linhart, de s'être trompé sur toute la ligne en ne donnant aucun crédit aux manifestations étudiantes. En d'autres termes, coupable d'un réflexe prolétarien étroit, comme lui reprochent ses détracteurs, dans le langage de l'époque. Certains de ses ex-UJ restent malgré tout persuadés de la pertinence de leurs convictions profondes. Oui, il faut aller au contact des ouvriers, vivre leur vie de labeur et souffler sur les braises encore chaudes de mai. Pour eux, la démarche reste valide, mais ils ne sont plus qu'une poignée, une quarantaine autour de Robert Linhart et de l'un de ses camarades de la rue d'Ulm, Benny Lévy. Alors, sur les cendres de l'UJ, ils fondent la gauche prolétarienne. Parmi eux, Jean-Pierre Le Dantec.
Évidemment, on part, après 68, on continue d'être gonflé à bloc, disons, on est renforcé dans notre être et assuré de l'idée qu'on ne s'est pas trompé. Non seulement l'Occident, bon, la France en particulier, doit être révolutionnée, hein, mais que c'est possible en plus. La seule question, c'est d'y aller. Et d'y aller vraiment. Et la gauche prolétarienne, je crois, est parmi les groupes révolutionnaires de ce temps-là, celui qui essaye de prendre le plus au sérieux l'idée que c'est possible et qu'on va le faire.
La ligne directrice n'a pas changé pour faire jaillir la révolution, mais la stratégie, elle, bouge, grâce à l'expérience acquise avant mai 68. La consigne n'est plus de faire de l'entrisme auprès des syndicats, non. La trahison née a montré qu'on ne devait rien en attendre. Des travailleurs l'ont bien compris, qui ont déchiré leur cœur du PCF, comme celle de la CGT. La cible de cette nouvelle vague d'établis, elle est à chercher du côté des ouvriers auxquels les centrales syndicales s'adressent moins, voire pas. Comme les travailleurs immigrés, très nombreux parmi les OS, ouvriers spécialisés. Mais pour s'établir, encore faut-il se faire embaucher. Les quelques dizaines d'établis avant mai 68 se sont fait remercier après la reprise du travail. Et les recruteurs se montrent méfiants. Ils ne veulent pas introduire de nouveaux vers dans le fruit. D'autant que la gauche prolétarienne ne va pas envoyer ses militants n'importe où. Elle vise les grandes usines mythiques, en particulier Flins et Sochaux, parce que c'est là-bas qu'a pris corps la plus forte opposition prolétarienne pendant les événements de mai. Alors, les Mao trafiquent leur CV, échafaudent des histoires à faire tirer les larmes ou à dormir debout. Quand ils tentent d'entrer chez Renaud Flins, par exemple, Charles-Henri de Choiseul-Pralin, un noble, comme son nom l'indique, membre de la famille Vandel, grand patron de la sidérurgie, s'invente un père mort à la guerre et une mère désargentée. Avec le faux certificat de travail d'un imaginaire patron précédent, ça passe. Avec Robert Linhart, en revanche, Citroën se montre pas plus regardant d'ailleurs. À l'automne 68, le leader de la GP montre l'exemple en postulant dans une fabrique de deux chevaux, Porte de Choisy, à Paris. Expérience qu'il a retracée 10 ans plus tard dans un livre paru en 1978 aux éditions de Minuit, titré « L'établi ». Un livre frappant par la beauté de sa langue et la force de sa démonstration. En voici un extrait, décrivant justement son embauche, lu par Samy Frey pour l'émission L'Heure Bleue en 2016.
Me voici donc à l'usine, établi. L'embauche a été plus facile que je ne l'avais pensé. J'avais soigneusement composé mon histoire, commis dans l'épicerie d'un oncle imaginaire à Orléans, puis manutentionnaire un an, certificat de travail de complaisance, service militaire dans le génie à Avignon. J'ai récité celui d'un camarade ouvrier de mon âge et prétendu avoir perdu mon livret. Pas de diplôme, non. Même pas le BEPC. Je pouvais passer pour un Parisien d'origine provinciale, perdu dans la capitale et qu'une ruine familiale, contraint à l'usine. Je répondis brièvement aux questions, taciturne et inquiet. Ma piètre mine ne devait pas détonner dans l'allure générale du lot des nouveaux embauchés.
Dès les premières pages de son récit, Linhart plonge son lecteur dans les sensations qui délimitent son univers, celui de l'établi. L'odeur de ferraille brûlée, le bruit incessant et la couleur, ou plutôt l'absence de couleur, une grisaille qui recouvre tous les éléments de l'usine et l'usine elle-même. Se fondant dans cette atmosphère, les établis s'astreignent par ailleurs à une conduite de vie rigoureuse. Et ce, pour traduire la ligne fixée par la gauche prolétarienne, autrement dit, anéantir leur statut d'intellectuel. Parce que seules les masses sont porteuses de vérité. Ils arrêtent de lire, ne vont plus au cinéma, ni au musée. Le travail, assommant, rythme leur journée, et leur engagement à la cause déborde bien au-delà des horaires. Pour approcher les personnes qui pourraient se montrer sensibles à leur discours, il faut aller au café après le boulot. Et puis, c'est sans compter le travail du militant, la rédaction de tracts, les longues réunions avec les camarades Mao, parfois jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, alors qu'on embauche à 4 heures. Ces triples journées se font sous le regard de la gauche prolétarienne qui protège ses établis. Ils ne participent pas aux manifs, par exemple, pour ne pas risquer la blessure. En revanche, on exige qu'ils se montrent exemplaires. Dans les cellules locales, on accuse certains d'entre eux de comportements bourgeois quand ils s'autorisent une sortie au restaurant. Même dans le travail de conviction auprès des collègues, il faut être irréprochable. Dominique Grange, chanteuse de la gauche prolétarienne, mais aussi établie pendant quelques années, en témoigne au micro de France Culture, en 2007.
Moi, j'essayais d'avoir des liens normaux avec les gens de mon atelier. Donc, je les invitais chez moi. On faisait des bouffes à midi, parce qu'à midi, on avait 1h30, je crois. Et moi, j'habitais tout près de l'usine, donc souvent, j'ai invité des gens de ma boîte. Et d'ailleurs, il y avait des camarades qui m'avaient critiqué dans mon organisation, parce que j'avais du pastis chez moi et j'offrais des... Ben oui, on buvait l'apéro, c'était dans le midi. Et j'avais que donc, si j'avais du pastis et que je faisais boire les ouvriers, c'était. Enfin, c'était pas bien, quoi. Une militante révolutionnaire ne devait pas entraîner les masses à boire. Alors, ça m'avait vraiment fait hurler. J'étais hors de moi. Je trouvais ça grotesque. Justement, Mao disait qu'un révolutionnaire doit être parmi les masses comme un poisson dans l'eau. C'est une phrase célèbre des écrits de Mao Tse-Tung. Et moi, je trouve que, toujours que c'est vrai.
Comme des poissons dans l'eau ou pas, les Mao établis doivent trouver des points d'appui pour mener leurs actions. Parmi elles, des mouvements de grève qu'ils essaient d'initier en contournant du plus loin possible les centrales syndicales installées. Robert Linhart, chez Citroën, convainc autour de lui de débrayer pour refuser 30 minutes de travail supplémentaire qu'on vient d'imposer à la chaîne. Du travail supplémentaire non payé, au prétexte que l'entreprise doit récupérer les heures perdues dans les grèves de mai-juin, nous sommes à l'automne 68. Linhart parvient à organiser cette grève quelques jours. Mais cette mobilisation est une maigre victoire qui illustre la difficulté énorme pour les travailleurs de protester. Les établis mettent aussi en œuvre d'autres modes d'action. À la hussarde, comme un prolongement téméraire de la folie des grandes grèves de mai. Des pots de peinture sont balancés sur les contremaîtres, bouc émissaire favori des révolutionnaires qui haïssent les chefaillons. Mais ces manières violentes font grincer des dents. Pour certains ouvriers, les Mao les mettent en danger en s'attaquant aux petits chefs. Entre les établis et les autres ouvriers, il y a une différence abyssale. Cette différence, c'est un militant d'un autre bord qui l'explique. Il s'appelle Michel Chemin. Très loin des étudiants maoïstes, il est issu d'une famille ouvrière. Et il aurait voulu échapper à l'usine, lui. Bon, raté. Mais il a beaucoup milité, côté CFDT. Au cours des années 70, sur un de ses postes, il croise un établi.
Moi, je comprenais pas trop sa démarche. Et ce qui m'a étonné à l'époque, c'est ce qui m'étonnait chez les établis, c'est que... Moi, j'avais qu'une idée, c'était essayer de me casser de l'usine, quoi, de faire autre chose, partir ailleurs, sans avoir de porte de sortie, mais j'avais pas envie de rester à l'usine, quoi. Pour moi, c'était une punition. Et je comprenais pas qu'il y en a qui voulaient rentrer à l'usine, quoi. Même si les gens étaient très sincères, ce dont je doute pas, parce que y a pas de raison d'en douter, même si c'était la sincérité qui guidait leur démarche, ils avaient toujours une porte de sortie. Les établis, c'était un peu ça, c'était... on y va, mais avec ce décalage qui m'a toujours gêné.
Eh oui, forcément, c'est le reproche adressé aux établis. Leurs compagnes et compagnons de peine, même s'ils les apprécient, le leur envoie parfois la figure. Hey, « Eh, toi, tu pars quand tu veux, hein ? Moi, je suis coincé, c'est mon destin. » Robert Linhart l'admet aussi. Alors pour diminuer un tant soit peu cet immense privilège, il se fait la promesse de ne pas quitter l'usine avant d'en avoir été viré. Ça durera un an. Mais cette liberté permet aussi aux établis de ne faire aucun calcul, contrairement aux syndicats, parfois clientélistes. Ils ont ainsi, et souvent, porté le fer pour la défense des travailleurs immigrés, dont les syndicats installés n'avaient rien à faire. Ces luttes, empreintes d'antiracisme, débordent dans le champ de la vie quotidienne, sur la question des logements, notamment. Derrière la grève de loyers qui fleurissent dans les Sonacotra au début des années 70, il y a souvent le soutien des Mao. En vérité, le mouvement est protéiforme. Très encadré dans la principale organisation pourvoyeuse d'établis, la gauche prolétarienne, plus libertaire dans d'autres groupuscules dont se prévalent certains établis, comme ceux qu'on nomme Mao Spontex, ou Vive la Révolution, par exemple, un mouvement où milita l'architecte Roland Castro. Ces différences, ces nuances, produisent un bilan contrasté du mouvement des établis, parfois contradictoire d'ailleurs avec son image. C'est le sociologue Marnix Dressenbein qui l'explique. Il est l'auteur d'une thèse universitaire sur le sujet, après avoir été lui-même établi.
Très compliqué le mouvement d'établissement, puis le mouvement gauchiste en général, parce qu'à la fois une contestation du monde tel qu'il est, et en même temps c'est un mouvement qui est très normatif, par certains côtés très conservateur, voire réactionnaire.
Marnix Dressen.
Par exemple sur la question des toxiques, illégaux, sur la question des rapports hommes-femmes, moi le mouvement dans lequel j'étais, ces choses-là étaient extrêmement normées, et des militants qui voulaient divorcer, ils devaient en rendre compte à l'organisation, et des efforts étaient faits pour les rabibocher, et c'était il y avait un côté très moraliste. C'était pas une contestation tous azimuts.
Et combien était-il à composer ce mouvement disparate ? Le même Marnix Dressenwein estime leur nombre à 2 à 3000 individus, principalement des hommes, mais aussi quelques femmes. Certains sont restés à l'usine quelques mois, d'autres de longues années, et pour une toute petite minorité tout au long de leur vie professionnelle. C'est en 1972 que l'on compte le plus d'établis en France. 72, l'acmé du mouvement, mais aussi l'année qui signe son arrêt en tant que ligne politique. Cette année-là, en effet, la gauche prolétarienne disparaît. L'organisation s'autodissout après des jours d'atermoiement, des heures à débattre entre l'option de la violence radicale, à l'instar des mouvements d'extrême-gauche italiens ou allemands, ou l'option de la disparition. C'est finalement cette dernière qui est retenue après la mort d'un militant de la gauche prolétarienne, Pierre Auvernet, assassiné par un agent de sécurité de l'usine Renault de Flins le 25 février. Et puis un autre événement, l'année suivante, en 1973 donc, vient définitivement ruiner la conviction des Mao.
Quelques 500 personnes réparties ce matin en 3 points dans Besançon pour distribuer des tracts, c'est par une manifestation d'information que les employés de chez Lip ont décidé de mener maintenant leur action. Une action calme qui avait déjà commencé hier soir. Elle s'est terminée après un débrayage d'une heure, mais reprendra très certainement pendant une partie de l'après-midi. Pour les syndicats, il s'agit dans l'immédiat d'alerter l'opinion publique sur le sort de l'entreprise. Et cela en divulguant un certain nombre de propositions contre le licenciement et le démantèlement pour que ces propositions soient enfin discutées sérieusement. Mais c'est devant l'abandon des autres secteurs, équipements civils et militaires, mécaniques de précision ou machines-outils, que naissent les craintes des employés. Une opposition, on le voit, très ferme. Il faut cependant pas oublier que si Lip devait fermer ses portes, c'est toute une partie de l'économie régionale qui serait mise en difficulté.
Lip, l'horlogerie et non la brasserie.
La blague d'Yves Mourouzi, qui présente le journal que nous venons d'entendre, ne fait rire personne chez les militants de la gauche prolétarienne. Car les faits sont cruels. Parce que pour se révolter contre leur patron, les ouvriers de Lip n'ont nul besoin des Mao, non ? C'est le rêve autogestionnaire qui prend corps sur les bords du Doubs à Besançon. Le slogan trouvé par les grévistes occupant l'usine résume cette utopie. C'est possible, on fabrique, on vend et on se paye. C'est donc possible, même sans l'avant-garde des étudiants Mao. On appelle cette initiative les SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production, un autre modèle, moins éthéré que les établis, plus concret. D'ailleurs, la majorité des Mao quittent peu à peu leurs usines. Ils reprennent le cours de leur vie et retrouvent le chemin qu'ils avaient quitté. Ils et elles deviennent médecins, journalistes, architectes, magistrats, magistrates. Certains restent ouvriers toute leur vie, avec dans leur bagage une expérience d'engagement politique total qui les aura marqués à jamais, même si cela n'a pas suffi à ce que jaillisse le grand soir tant espéré. Aujourd'hui, les établis, on en parle avec deux invités. Marnix Dressenwein, sociologue, auteur d'une thèse sur les établis, après avoir été lui-même un établi. Bonjour.
Bonjour.
Et Virginie Linhart, que nous attendons. Ça y est, elle est là. Bonjour, vous m'entendez ?
Je vous entends parfaitement.
Bien, vous êtes l'autrice de Volontaire pour l'usine, vie d'établi et du jour où mon père s'est tu, aux éditions du Seuil, livre dans lequel vous racontez les conséquences de l'engagement politique de votre père, Robert Linhart, pour ce qui concerne le deuxième livre. Je commence avec vous, Marnix Dressenwein. Vous avez interrogé près de 300 anciens établis pour votre thèse. Quels étaient leurs profil ? Est-ce qu'il y avait d'ailleurs un profil type ou est-ce que c'était plus protéiforme ?
Écoutez, ce qui était frappant, c'est que les établis, quand on les interroge sur leur origine sociale, on se rend compte qu'elles sont très semblables à celles des étudiants de l'époque, avec une surreprésentation des établis qui seraient issus des couches supérieures de la société. Mais on n'est pas face à une situation telle qu'elle a été décrite assez souvent de façon caricaturale, comme quoi c'était que des fils de famille. Ça existait, vous en avez donné un exemple tout à l'heure dans votre émission, mais c'était pas le cas général. On va dire que bon, c'était plutôt les couches supérieures de la société, à l'image des étudiants de l'époque. C'est très important de le dire. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, les étudiants sont loin d'être représentatifs de la population active en général. Mais c'était encore plus vrai à l'époque, bien sûr.
Virginie Linhart, il y a la conscience de classe, il y a la lutte des classes aussi, la conscience de classe qui peut être salutaire, hein, contre les communautarismes par exemple, du temps de la classe ouvrière quand elle était puissante, qu'elle avait une identité politique. Un ouvrier se sentait d'abord ouvrier avant d'être, je sais pas, chrétien, juif, musulman, homme, femme, homosexuel, hétérosexuel, toutes les têtes de chapitre du communautarisme contemporain. Mais la conscience de classe aussi pour la GP, c'était de cantonner les ouvriers dans leurs conditions. On va pas au cinéma, on va pas au théâtre, on va pas au musée, c'est bourgeois. C'était pas très émancipateur tout ça.
Ce n'était pas émancipateur, certes, au niveau, disons, des mœurs. Mais je pense quand même que ça a été, ça a pu être éventuellement émancipateur pour certains ouvriers. Vous n'avez pas mentionné dans votre récit qu'il y a pas mal d'ouvriers aussi. Je pense que Marnix Dressen le dira, dont la vie a été la trajectoire qui était toute tracée en usine du début à la fin de leur vie, a été déviée par la rencontre des établis. Et dans mon livre Vie d'établi, je raconte ces ouvriers qui ont rencontré les établis et qui ont quitté l'usine. Je pense par exemple à Jean-Claude Poiron, qui est devenu réalisateur de documentaires. Un autre homme que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite, dont mon père était très proche, qui s'appelait André Radondi, qu'on appelait Dédé, et qui lui a quitté l'usine, qui était vraiment un très jeune prolo et est devenu éducateur spécialisé. Donc il y a eu parfois une émancipation, mais il est clair que le projet était politique, il n'était pas dans la libération qu'on a vue après.
D'ailleurs, mardi, que cette scène vagne dans le récit, on vous a entendu analyser le phénomène où vous dites qu'il est contradictoire parce qu'il est aussi assez conservateur.
Et disons que le mouvement d'établissement peut s'interpréter comme une tentative un peu désespérée de redonner à la classe ouvrière son rôle de sujet historique, c'est-à-dire de classe qui va être motrice dans l'histoire pour conduire la société à la révolution. Et on peut dire de ce point de vue, même si je me rends bien compte qu'en disant ça, je choque beaucoup d'auditeurs qui continuent à penser que le groupe social ouvrier est un groupe social dont il faut attendre l'émancipation sociale. Pour l'instant, l'effort des établis, donc tourné vers le passé pour préparer l'avenir, ne s'est pas matérialisé, ne s'est pas concrétisé. On peut même dire qu'on est dans une société dans laquelle la bourgeoisie, et même la bourgeoisie financière, est triomphante. Donc la démarche des établis n'est pas, de ce point de vue, porteuse du présent. Je ne veux pas me prononcer sur l'avenir, nul ne sait de quoi l'avenir sera fait, mais voilà, ce que j'essaye de dire, c'est la démarche qu'ils ont adoptée à l'époque ne s'est pas matérialisée aujourd'hui dans un retour en gloire de la classe ouvrière.
C'est moins qu'on puisse dire, effectivement. On va continuer à sonder les motivations profondes des établis en écoutant un autre témoignage, le dernier témoignage de cette émission. Parole donc donnée à une établie à Sochaux, elle s'appelle Claire Brière-Blanchet.
Nous avions tous un compte à régler, c'est vrai. Pour ma génération, c'est la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. Ça, c'est évident. Beaucoup de membres de la gauche prolétarienne, donc des maoïstes, étaient eux-mêmes de familles juives, dans lesquelles il y avait beaucoup d'absents. Alors, il y avait des familles aussi de résistants. Dans le fond, nous allions être, nous aussi, des résistants.
Alors je vais faire réagir Virginie Linhart, bien sûr, vos grands-parents étaient des exilés juifs. Est-ce que vous pensez aussi qu'ils avaient un compte à régler, comme le dit Claire Brière-Blanchet ?
Écoutez, je ne sais pas si c'est un compte à régler, mais je pense qu'il y avait, oui, cette idée que après le De Gaulle qui avait dit non à Vichy, qui avait dit non à l'occupant nazi, il y avait le De Gaulle qui incarnait l'ordre conservateur et que être dans un mouvement révolutionnaire, c'était en quelque sorte être résistant, oui. Et c'est vrai que à la gauche prolétarienne, par exemple, il y avait énormément d'enfants de juifs rescapés de l'extermination des juifs d'Europe, et que cette question a joué un très grand rôle, tout comme elle a joué un très grand rôle d'ailleurs dans la dissolution de la gauche prolétarienne, puisque c'est aussi, et vous l'avez dit justement, autour de la lutte armée, la guérilla, que les chefs de la GP ont dissous, parce qu'ils ne supportaient pas l'idée, par exemple, qu'au JO de Munich, en 72, la base prolétarienne n'ait pas été particulièrement choquée par l'exécution de 11 athlètes israéliens.
Marnix Dresden-Bagn, vous avez été, vous aussi, établi pendant un temps, on est bien d'accord?
Oui.
Bien, racontez-moi.
Écoutez, moi je me suis établi en 73 jusqu'en 77. Je me sentais porteur d'un message à porter à la classe ouvrière et justement pour la revitaliser, pour lui donner confiance dans ses capacités à jouer un rôle décisif dans le changement social. Je regrette pas du tout d'avoir fait d'avoir adopté cette démarche. Mmh. Je suis très content d'avoir franchi ce qu'on appelle les barrières de classe, d'avoir opté pour une mobilité sociale descendante. C'est pas si fréquent. Cela dit, ce qui a été dit dans votre récit tout à l'heure est tout à fait exact, c'est que les établis avaient une voie de sortie. Ils l'ont pas tous choisi, ils l'ont pas tous emprunté. Quand j'ai préparé ma thèse à la fin des années 80, je l'ai soutenue au début des années 90, mais je l'ai préparée à la fin des années 80, il y avait encore 10% des 300 personnes à peu près qui ont répondu à mon enquête quantitative qui étaient encore en usine. Et il y en a qui sont restés jusqu'à leur départ de la retraite. Donc, alors peut-être c'était les établis qui avaient le moins de ressources pour retomber sur leurs pieds, pour rebondir, comme on dit aujourd'hui. Mais c'était pas toujours vrai. J'ai connu, par exemple, un agrégé d'Italien qui est resté à l'usine et qui est parti à la retraite alors qu'il était encore à l'usine. Voilà. Mais je trouve que de faire cette expérience, si vous voulez, d'aller à la rencontre d'un milieu social qui vous est étranger par les socialisations dont vous avez fait l'objet, par votre origine sociale, eh bien, je trouve que c'est une expérience qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait rester 5 ans à l'usine, comme presque 5 ans, comme je l'ai fait, ou est-ce qu'il fallait, voilà. Ça, c'est une autre discussion, mais j'invite les personnes les plus favorisées de la société à aller enquêter. Mmh. Et vous parliez tout à l'heure de Mao Tse-Tung comme dictateur, etc. Vous avez probablement tout à fait raison, mais néanmoins, il y a des choses qu'on trouve dans Mao qui sont tout à fait judicieuses, à mon avis, et par exemple, celle-ci, qui n'a pas fait d'enquête, n'a pas droit à la parole. Donc, il faut descendre de son cheval, il faut aller voir les choses de près, et la meilleure façon de voir les choses de près, c'est d'aller vivre parmi les gens, hein, et d'aller travailler parmi eux.
Alors justement, Virginie Hilliard, je vais vous passer la parole maintenant pour le reste du temps. Déjà, qu'est-ce que ça nous dit de la société de l'époque ?
Mais ce mouvement-là, ça nous dit beaucoup sur, comme l'a dit Marnix Dresden, sur sa capacité à l'époque à changer de statut, changer de classe, à s'engager. Et moi, je dirais que c'est franchement ce qui me touche le plus, si vous voulez, dans le mouvement de l'établissement. Encore aujourd'hui, il faut dire que c'était des gens, jeunes gens, souvent très jeunes. Effectivement, c'était souvent des étudiants qui abandonnaient tout pour aller travailler dans des conditions très dures, parce que l'usine, c'était très dur hein, dans les années 70, avec des cadences infernales. On n'était pas bien traités, on n'était pas bien payés. Et ils vivaient très petitement, ils militaient à côté, etc. Et c'est vrai que ceci continue de me toucher. dans un monde qui aujourd'hui a plutôt tendance à être exclusivement dans l'individualisme, dans l'épanouissement du soi ou dans l'enrichissement personnel.
Oui, dans la valorisation du capital beaucoup plus que du travail.
Absolument.
Si la pratique de l'établissement, ça m'arrange de dire établissement, ça me fait penser à establishment, mais c'est tout le contraire.
Donc, oui, c'est drôle, c'est vrai, vous avez raison.
Donc si c'est entré dans les mémoires, c'est en grande partie grâce au livre de votre père, hein, L'établi, sorti en 1978 aux éditions de Minuit, avec une dimension politique, mais c'est aussi un texte qui a marqué la littérature française de la deuxième partie du XXe siècle, livre fondateur, j'imagine, vous le voyez comme ça, en plus c'est votre père, mais au-delà de ça, c'est un livre fondateur témoin que fondateur
Écoutez, non, je pense que c'est un livre fondateur, je pense que c'est un livre qui a fait vraiment comprendre ce que c'était que l'établissement pour énormément de gens. Alors moi, j'étais au lycée, imaginez-vous, et dans mon manuel d'économie, il y avait un extrait de l'établi. Bon, c'était très très impressionnant parce que mon père était vivant, etc. Il était déjà dans les manuels. Ça me permettait d'avoir des bonnes notes en cours d'économie. Mais je crois que c'est un livre fondateur. Bon, évidemment important sur le plan littéraire, ça c'est indiscutable et tout le monde le sait. Et d'ailleurs, c'est agréable parce que du coup, je ne suis pas juste la fille de mon père qui dit oh là là comme il est beau ce livre. Je crois que c'est à travers ce livre-là, toute l'expérience de l'établissement et ce qui a essayé d'être touché, que Robert essaye de décrire. Et je pense qu'en ça, il reste très actuel. Et moi, je rencontre très souvent des jeunes gens de 20 ans qui me racontent combien ils ont été bouleversés par la lecture de ce livre.
Ce sera le mot de la fin, on comprend ce qu'il y a derrière. Merci infiniment, Marnix Dressen et Virginie Linart. Merci, au revoir.